Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la cinquième et dernière saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles, peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement, pour vraiment montrer que l'échec, c'est pas juste professionnel. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les guerriers que j'ai reçus, je peux t'affirmer que l'échec, c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a les armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix. L'échec mention très bien, c'est la dernière saison. Je suis avec Mona.
Salut.
Ça va Mona ?
Ça va très bien, et toi ?
Bah trop bien. Petite pause déj, on enregistre, tranquille, dans les bureaux de Sunday, enfin les bureaux... Les autres ont cramé, donc on a trouvé un petit truc, quoi, puis on a trouvé un petit créneau avec Mona, donc trop content. Mona, qui es-tu pour celles et ceux qui nous écoutent ?
Alors je suis écrivain, mais en fait depuis peu. C'était pas ce que je faisais au départ. J'ai travaillé pendant 8 ans comme chef de projet dans des entreprises de la tech. Et il y a 2 ans, suite à un bel échec, j'ai pu embrayer sur ma passion, c'est-à-dire écrire des livres. Mon prochain livre va sortir au mois d'août. C'est un roman, c'est une réussite. Et je suis aussi éditrice d'une revue littéraire depuis peu.
Boum. On a quand même quelqu'un en face, là. Trop bien. Super, Mona. On va parler du coup avant de ce que tu faisais. Ça va être aussi un peu le thème du podcast, entre autres. Avant qu'on démarre justement là-dessus, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'échec ? Comment est-ce que tu vois l'échec, toi, Mona ?
Alors moi, je vois l'échec à travers son étymologie. Échec, c'est un mot qui vient de l'expression échec et mat, et du persan chamat. Chamat, ça veut dire le roi va mourir. Le roi est encerclé, le roi est acculé, il ne peut plus rien faire. Et en fait, dans les échecs, quand on est en échec, ça ne veut pas dire qu'on est mort. C'est juste avant de mourir. Et dans les échecs, le roi, on n'autorise pas à ce qu'on enlève cette pièce et à ce qu'on le fasse tomber sur le plateau. Par respect, on ne fait jamais mourir le roi. Donc moi, ce qui m'intéresse dans l'échec, c'est ce moment où on est encerclé et en fait, où on ne peut plus bouger. Donc il faut soit changer de plateau de jeu, soit changer de partie, soit trouver un passage pour s'infiltrer. Et l'échec, pour moi, c'est cette situation-là. C'est le moment en fait, où il va falloir trouver un autre jeu à jouer.
Je ne l'avais jamais eu. C'est une très belle métaphore. Tu joues aux échecs ?
Je ne joue pas aux échecs, je suis très nulle, je n'arrive pas à comprendre les règles, mais ça me fascine. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la série Le jeu de la dame, voilà, ouais. C'est assez génial. Et en fait, comme le mot échec vient de ce jeu, ouais. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à partir de quoi c'est construit. Ouais. Et pas voir l'échec effectivement comme le moment où on est fini, ouais. Mais le moment juste avant.
Ouais, c'est ce qu'on essaie de définir, ouais, que c'est jamais une fin en soi à ce niveau-là. Ouais. C'est cool, franchement, première fois qu'on a une définition comme celle-ci, on sent qu'il y a quelqu'un qui écrit des bouquins en face là.
Un petit peu, j'avoue. Puis je voulais me la raconter pour commencer le truc, tu sais, histoire
et
de... Voilà.
C'est bravo, parce que même moi, je ne sais plus ce que je fais là. Trop cool. Bah, écoute, Mona, très belle définition encore. Je pense que, ouais, première fois, donc définition inédite, sujet inédit. Du coup, je pense que c'est une belle amorce aussi pour la suite. Aujourd'hui, Mona, on se retrouve pour parler d'un sujet extrêmement compliqué et que moi, je voulais à tout prix traiter avant de finir le podcast, on est sur la dernière saison. Et du coup, avant de commencer, je voulais déjà te remercier d'avoir le courage de venir parler de ça, parce que j'avais fait un petit appel justement sur Facebook, j'allais dire. Mon père qui va sur Facebook. J'avais fait un petit appel sur LinkedIn avant les vacances pour parler du coup de ce sujet-là, qui est du coup le harcèlement sexuel. Encore une fois, quand on parle de ces sujets-là, je remets toujours le contexte pour ceux qui écoutent pour la première fois le podcast. On ne parle pas d'un échec au sens, encore une fois, littéral du terme. Hein. Tu ne te mets pas dans cette situation-là, tu ne décides pas de te faire harceler sexuellement.
Mais donc, je précise que je suis du côté de la victime et pas de la harceleuse.
c'est bien, voilà. C'est bien de le préciser, Mona, tu fais bien. Mais je trouve ça hyper, hyper fort de venir parler d'un sujet comme celui-ci. Je pense qu'il y a malheureusement plein de gens qui y sont confrontés. Et donc pour ça, déjà, merci. Et donc, je vais te laisser un peu la parole pour expliquer comment ça s'est passé. Donc, à l'époque, tu étais dans une autre boîte, puisqu'on parle de ça il y a 2 ans. Justement, ça a été le déclic, comme tu disais.
Exactement.
Et donc, voilà, un peu comment ça s'est passé. Tu peux nous raconter les premiers moments, les arrivées à la boîte, quand est-ce que ça s'est déclenché. Puis, on va essayer un peu de...
Alors, fin 2019, j'arrive dans une nouvelle société sur un poste qui était honnêtement, à ce moment-là, le poste de mes rêves. Contenu du poste, rémunération, société en elle-même, projet de la boîte, équipe, le plan de rêve. J'avais déjà quelques années d'entreprise derrière moi. J'étais assez confiante sur cette prise de poste et en même temps impressionnée, donc contente, motivée, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Ça semblait vraiment être la bonne occasion. En parallèle, j'étais en train de changer de vie, c'est-à-dire que je quittais un poste que j'avais depuis plusieurs années. Et également mon conjoint, donc j'étais un petit peu aussi sur du renouveau. J'en parle parce que c'est peut-être ça qui fragilise aussi la situation et que le fait d'être en plein changement avec moins de repères fait qu'on est des cibles faciles, entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Donc, j'arrive dans une boîte et au bout de 3 jours, je perçois déjà un petit sentiment désagréable vis-à-vis de mon supérieur hiérarchique. Donc des petits moments où je me pose des questions. Des remarques qu'il fait, des choses désagréables, des regards, des choses aussi assez déstabilisantes par rapport au travail qu'il me demande de fournir. Par exemple, me demander quelque chose que je fais aussitôt et puis me faire croire que je ne l'ai pas fait ou qu'il ne me l'a pas demandé, alors que j'ai sous mes yeux la présentation que je viens de faire et puis son email ou alors son ordre oral. Donc plein de petites choses qui ont commencé à me déstabiliser. Et puis ça n'est allé qu'en s'empirant, c'est allé de pire en pire. Ça a fait un petit effet boule de neige, j'ai envie de dire. Et puis, comme je suis assez sûre de moi, je l'ai essayé de le recadrer rapidement. Mais plus je l'ai recadré, et plus ça s'est empiré. Donc j'étais isolée face à ce manager. Ma prise de poste, par ailleurs, se passait bien avec les autres personnes. Mais j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait vraiment, parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas préparé du tout. Parce que c'est toujours quelque chose qu'on pense qui n'arrive qu'aux autres. C'est aussi pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Et puis, c'est quelque chose dont on n'a pas envie de parler tout de suite quand on commence un poste, surtout un poste qui se passe bien, un poste qu'on a voulu, parce qu'on comprend très rapidement que ça va mal se finir. Et on sait très bien qu'il y a des chances qu'on soit sorti de l'équipe ou quand on est en période d'essai, qu'on nous accuse potentiellement d'inventer des choses. Donc moi, j'ai tout de suite compris aussi que cette personne-là, elle avait l'air d'être très appréciée. Et donc, je ne me suis pas vue capable d'alerter. Surtout qu'au début, ça n'est pas flagrant. C'est-à-dire qu'alerter sur quoi ? On ne va pas dénoncer le fait que son supérieur a donné un faux ordre ou s'est trompé. Donc, au début, on est un petit peu dans cette période, en fait, d'identification qu'il y a un problème, mais on ne sait pas quoi.
Au bout de trois jours, tu dis déjà.
Au bout de 3 jours, mais voilà, il y a des jours où il est en congé. Il y a des jours où je travaille avec d'autres équipes. Donc, c'est distillé. C'est-à-dire que ça va arriver... c'est arrivé le 3e jour, c'est arrivé, on va dire, le 5e jour, puis le 10e, etc. Et avec à chaque fois, des justifications de sa part qui pouvaient être vraies. Donc on est dans une espèce d'espace mental où la réalité va bouger un peu et on va sans cesse se remettre en question. Je parle de ça parce que c'est le mécanisme premier de pourquoi il y a du harcèlement dans les entreprises. Enfin, le mécanisme premier est bien sûr l'acte de harcèlement, mais pourquoi on le laisse perdurer, pourquoi ça arrive, et pourquoi les gens n'arrivent pas forcément à s'en sortir, et pourquoi être victime de ça, ça peut durer longtemps et ça peut détruire complètement quelqu'un, c'est parce qu'en fait, ça vous met dans un état psychologique de doute permanent sur vous. Donc j'arrive dans une entreprise, mon boss s'avère malfaisant, mais je ne suis pas sûre, parce que quand on arrive dans une entreprise, on se dit qu'on ne comprend peut-être pas les process, qu'on n'a pas bien compris quelque chose, qu'on doit demander à quelqu'un d'autre ou à une autre personne, qu'on est nul aussi simplement. Donc on met longtemps à comprendre que le problème vient de la personne concernée.
Moi aussi, je pose une question. C'est parce que là, on parle du coup du N+1.
Ouais.
Est-ce, c'est lui en plus qui t'a recruté ? Donc tu avais déjà eu des contacts avec lui au préalable qui t'avaient fait dire « c'est cool, je vais aller là, en plus j'ai un bon manager ».
C'est tout à fait ça. Ouais. J'ai fait un entretien avec cette personne et je l'avais trouvé très sympathique, très motivé, très intéressant. Donc j'étais très contente de rejoindre son équipe. Je ne me suis pas posé la question parce qu'on ne fait pas une checklist « est-ce que je vais me faire harceler quand on rentre dans une boîte ?» Et puis, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, du fait qu'il y avait vraiment un problème et que ce n'était pas juste des petits incidents, c'est que plein de gens sont venus me demander comment ça se passait avec lui. Mais pas juste pour me demander si j'étais heureuse dans la boîte, juste pour me demander est-ce que spécifiquement, avec cette personne, ça colle. Et là, je me suis demandé pourquoi. Et je me suis rendu compte aussi que dans les réunions, cette personne-là me plaçait contre les autres. Elle me disait toujours avant chaque réunion, tiens, aujourd'hui, on va voir un tel. Fais attention parce qu'un tel est manipulateur, etc. Et pendant au moins 3 mois, selon lui, toutes les autres personnes étaient manipulateurs, méchants, menteurs, difficiles au travail, en recherche d'un positionnement certain, etc. Et donc, il m'a monté, en fait, il a essayé de monter contre tous les gens.
Qui est venu te voir, justement, ces premiers temps? C'est des collègues qui étaient, femmes aussi, du coup, qui sont venues te voir? C'est
les
de
deux,
tout
ouais, tout ouais. à fait. C'était des personnes qui, ensuite, m'ont soutenu potentiellement parce qu'ils avaient identifié ce problème et ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils fassent ça jusqu'à ce point-là sur une subordonnée. C'était des personnes qui étaient aussi alliées avec cette personne, mais qui, je pense, aujourd'hui, ne se rendaient pas compte qu'ils pouvaient aller aussi loin et qui, sur le papier, étaient amies avec lui, allaient boire des coups avec lui le soir, etc. Et puis aussi, ce sont des personnes qui étaient complètement dans cette dynamique de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est une entreprise dans laquelle il n'y avait pas un seul manager qui faisait ça. C'était une forme de système. Voilà, on parle souvent de système, mais c'est assez réel. Et c'est-à-dire que quand il y a des exemples au placé qui peuvent potentiellement avoir ce genre de comportement, les personnes d'en dessous vont les répéter en se disant que c'est impuni. Donc on était sur des schémas en fait, de managers qui malmenaient les personnes. Il y a du harcèlement sexuel, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait du harcèlement tout court aussi. Donc c'était des personnes qui essayaient de m'entraîner aussi dans ce système. Il y a quelqu'un qui est venu me voir au bout de 2 semaines pour me préciser que si j'avais envie d'avancer plus vite dans cette société, je pouvais tout à fait contacter le DG, me préparer pour une soirée seule en tête-à-tête avec lui et que ça serait apprécié puis que c'était rigolo. La soirée de Noël, puisque je suis arrivée dans la société en août, en septembre, à la soirée de Noël, un des managers, qui n'était pas le mien, m'a proposé de me raccompagner de manière extrêmement insistante. Et j'ai dû lui mentir et lui faire croire que j'habitais dans la direction opposée, alors que tout le monde savait que j'habitais à mon adresse, pour qu'il me lâche. Donc c'était un petit peu institutionnalisé. C'était des regards d'hommes envers les stagiaires. Femmes. C'était par exemple lors d'un recrutement, puisque les RH étaient à ce moment-là toutes des femmes et des apprentis, c'était des petites blagues pour les inciter à prendre des jeunes femmes pour qu'elles se sentent mieux, par exemple. Donc c'était toute une forme d'institutionnalisation qui a créé un climat d'entreprise tel et qui a fait que les gens ne se dénonçaient pas, les gens le savaient, ne disaient rien, et en même temps, on était dans une société un peu à la pointe, avec des personnes très qualifiées, très éduquées, donc pas dupes du tout de la situation, qui sont venues, une par une, venir voir comment j'allais, en fait. Donc très rapidement, j'ai compris que c'était au-delà d'une simple mésentente avec mon supérieur ou d'une simple mauvaise compréhension des ordres qu'il me donnait. Et puis très vite, une amie m'a alertée, puisque j'ai une amie qui est juriste en droit du travail, et de temps en temps, je lui laissais une petite note vocale sur WhatsApp de ma journée en disant « Disons que c'est difficile aujourd'hui, il m'a fait tel coup, il a fait ça. » Et je racontais un peu ce qui se passait. Alors c'était m'envoyer à l'autre bout de la France. Un jour, par exemple, il fallait que je prenne l'avion à 5h du matin. Sauf qu'il me prenait la veille en sachant qu'on avait un travail d'entreprise à faire jusqu'à 22 ou 23h. Et à 23h, il me dit « À 5h, t'es dans l'avion. » Donc c'est compliqué. Déjà, c'est difficile. En temps normal, au-delà du harcèlement, c'est interdit aussi, par ailleurs, je tiens à le préciser. Et puis en plus, une fois que j'avais réussi à prendre mon avion à 5 heures en ayant dormi 4 heures, c'était arriver chez le client, me reprocher d'avoir 3 minutes de retard, puis me couper la parole devant le client, puis le soir, à la sortie de la réunion, me demander de me taire parce que de toute façon, j'avais rien compris, puis au dîner, me demander de bien sourire pour faire plaisir au client, puis le soir, en sortant du dîner, me poser la main sur la cuisse dans la voiture pendant qu'il me ramenait à l'hôtel, puis rester devant ma porte de chambre d'hôtel, etc., etc. Et ça n'était jamais au-delà d'impression pendant un long moment. Donc c'était très malaisant. C'était même c'était extrêmement intimidant. Et puis plus je recadrais, plus je prenais cher. Ça, c'était vraiment le pire.
Et tu recadrais comment?
Je recadrais de manière très formelle, puisque j'ai compris rapidement que ça allait pas bien se finir. par ces gens qui venaient me demander comment ça allait. J'ai compris que c'était qu'ils le savaient. J'ai compris rapidement aussi que mon poste, qui était un poste assez génial, avait été proposé à d'autres personnes de l'entreprise qu'il avait refusé alors que ça représentait pour eux une promotion. Et j'ai compris que c'était à cause de cette personne. Donc j'ai recadré de manière formelle, c'est-à-dire je propose une réunion, j'écris ce qui s'est passé et je lui dis je ne veux plus que ça se passe. Je ne veux plus que tu mettes dans mon agenda des choses avec des horaires le soir ou le matin en dehors des heures de travail sans m'avoir consulté d'abord, sans avoir consulté le reste de l'équipe. Et puis je me suis aperçue que même ça s'était contourné. Par exemple, une fois j'ai sollicité un point avec cette personne-là et son supérieur hiérarchique pour faire une forme de rapport d'arrivée. On appelle ça un rapport d'étonnement. C'est un outil qui est très utile quand on arrive dans une société pour dire bah, comment ça se passe, pour proposer des améliorations. C'est quelque chose que je fais toujours. Et mon supérieur m'a interdit d'intégrer à ce point son supérieur à lui, sous prétexte que je lui faisais perdre son temps, qu'il n'avait pas à apprendre ce genre de choses, que lui-même lui ferait la commission plus tard, etc. Donc je me suis aperçue qu'il trouvait des façons de contourner. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était institutionnalisé, que c'était une habitude de cette personne. Et ensuite, ça a dégénéré.
Ça avait pris combien de temps, du coup, ça ? Parce que du coup, tu disais au début très justement que, bah, comme tu viens d'arriver, donc déjà, tu t'émets un peu des doutes, t'es un petit peu seul parce que tu connais pas encore les gens. Est-ce que ça, du coup, c'est arrivé au moment où tu l'as validé, du coup, ta période d'essai chez eux ?
Alors, curieusement, c'est eux qui ont validé ma période d'essai au bout de 2 mois.
Ok, donc elle était faite en.
Elle était potentiellement renouvelable en plus, donc sur un poste de cadre, ça peut durer 7 mois, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Au bout de 2 mois, on m'a validé ma période d'essai avec les félicitations du jury, enfin voilà, vraiment le truc en fanfare. À savoir, depuis que je me suis renseignée sur les problématiques de harcèlement, je me suis rendu compte que c'est une technique aussi. Une technique, par exemple, de survaloriser, de surpayer aussi, des profils pour ensuite pouvoir leur faire accepter plus facilement n'importe quoi.
Pour acheter ton silence en quelque sorte. Quoi.
Alors ça c'est dit comme ça, ouais effectivement, mais sur le moment on se rend pas compte du
Bien
tout
sûr.
Quoi. On le voit pas comme ça, moi je me suis jamais dit je reste pour l'argent quitte à subir ça.
Bien sûr.
C'était juste que quand ça s'est mal passé, je me suis dit bon, je suis en période d'essai, j'avais pas lancé d'autres processus de recherche en même temps, je voulais voir comment ça se passait. La boîte bougeait énormément. Je sentais qu'il y aurait aussi des ouvertures de postes avec d'autres managers. J'avais même pas eu le temps de prendre mes marques, en fait. Donc, j'étais même pas en train de me dire ça vaut le coup de rester ou pas. Moi, j'étais au stade où on galère à trouver la salle de réunion, quoi. C'était vraiment... voilà. Donc, j'ai eu, mine de rien, de la chance, entre guillemets, que ça arrive plus vite et que je sois pas coincée, en fait, quelque part. Donc, ils m'ont validé ma période d'essai. Il faut savoir que là, on est fin 2019, début 2020. Ça a duré que quelques mois. Et puis derrière, en fait, il y a eu très rapidement le confinement et le Covid qui ont complètement changé la donne. Parce que, en premier lieu, on a travaillé un petit peu à distance. Et là, je travaillais avec des clients et je travaillais aussi uniquement avec ce manager au lieu de travailler en équipe. Donc, j'étais confrontée à lui tout le temps. Et je ne voyais que pour les déplacements. Déplacements qui occasionnent... forcément, mécaniquement, plus d'options pour déraper, en tout cas dans sa tête, quand on est câblé comme ça, je veux dire. Et en fait, c'est devenu insupportable très vite. Rajouté à ça, l'angoisse du confinement, l'angoisse du Covid. J'étais confinée seule chez moi à Paris, et c'est devenu invivable à ce moment-là très vite. Donc c'est quelques jours avant, d'ailleurs, qu'on soit confinée, que j'avais alerté son supérieur. Qui, je le pensais, allait réagir. Voilà.
Ok. Donc tu l'alertes, c'est ça, c'est mars, quoi. Mars 2020, c'était il y a 2 ans.
Février, ouais.
Février.
Donc juste avant le confinement, je l'avais préalerté. Ouais. Derrière, on est enfermé. Donc j'attendais une réaction. Je me suis dit, c'est le moment idéal, en fait.
Mm-hmm.
C'est aussi le moment idéal pour ne rien faire, d'après lui. Et donc, il ne s'est rien passé, du tout, de la part de ma hiérarchie supérieure.
Que t'as voilà. relancé du coup après, quand t'as vu qu'il se passait rien, est-ce que tu t'es résigné du coup, ou est-ce que t'as plutôt
Alors j'ai compris tout de suite quand il s'est rien passé qu'il allait rien se passer. J'ai compris tout de suite parce que j'avais aussi échangé avec quelqu'un qui était délégué du personnel. J'avais aussi échangé avec des amis que je commençais à me faire dans la boîte. Et j'ai compris tout de suite que c'était déjà arrivé. Et j'ai compris que ça n'allait pas changer pour moi. rien ne change. C'est-à-dire que pourquoi il changerait ça pour moi ? Je suis là depuis 3 mois dans la boîte, je suis une ressource comme une autre, vu que c'est comme ça qu'ils traitent les personnes. Donc j'ai compris que quoi que je fasse, ça allait pas bien se finir. Et en plus, c'est le moment où je me suis dit, là vraiment il faut chercher autre chose, sauf que le confinement arrive. Donc là je me suis retrouvée un petit peu dans cette situation dont on parlait tout à l'heure, acculée, c'est-à-dire avec 0 option. Donc enfermée chez moi, avec un manager maltraitant, sans possibilité de me confier puisque les personnes n'étaient pas disponibles, c'était le confinement, etc. Des clients qui ne me connaissent pas assez aussi. Et ça, c'est très important parce que j'étais souvent en face à face avec le client. Et il faut voir que dans ce genre de dynamique, quand vous avez une personne déjà qui vous harcèle, qui vous maltraite et qui vous fait croire que vous travaillez mal, malgré la période d'essai validé, j'avais tout le temps des remarques sur mon travail qui étaient souvent injustifiées. Mais c'est dur de se dire que c'est injustifié. Moi, je suis de bonne volonté, j'essaie de faire mieux, etc. Mais c'est dur de se rendre compte. Mes clients ne me connaissaient pas assez. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit... On va voir ça comme un échec. Les gens vont me dire que je travaille mal si je me fais virer. Ils vont pas se dire qu'il y a eu un problème avec mon manager. Ils vont penser que je faisais pas l'affaire. Ils vont penser que je tenais mal mes clients, que je travaillais mal avec eux. Donc si je cherche autre chose, j'aurai pas d'aide, pas de lettre de recommandation, un trou sur mon CV et la période est pas du tout propice. Donc là, je me retrouve vraiment fichue, quoi. Pour moi, j'étais... J'étais vraiment en galère de chez galère. Évidemment, je rajoute une couche avec pas vraiment d'économie, pas de soutien familial. Ça, c'est une donnée de base, mais je veux dire, ça m'a jamais posé problème au travail quand il n'y a pas d'autres problèmes. Mais là, c'est vrai que c'était difficile aussi de se dire qu'on n'a pas de filet financier. Et puis, pour des raisons diverses, la plupart de mes amis se trouvent à l'étranger. Donc, je me suis retrouvée enfermée seule dans un appart à Paris, avec un mec maltraitant qui m'appelait en call toute la journée, qui a complètement dérapé à ce moment-là, c'est-à-dire que les messages arrivaient aussi le samedi, etc. Et j'avais peu d'autres options que de me mettre en arrêt maladie, tout en sachant que je ne me sentais pas dans un cas de maladie. Donc j'avais du mal à envisager ça aussi. Voilà.
Vous étiez en chômage partiel à l'époque avec ta boîte ou pas
On
du
était
tout
en
ou...
chômage partiel avec... la demande tacite de travailler.
D'accord. Ok. Oui, comme beaucoup de boîtes pendant le confinement, finalement.
Faut pas le dire.
Ouais, ouais, voilà. D'accord. Ok. Et donc, du coup, donc là, tu te mets en arrêt maladie. Et là, tu as un peu répondu à la question où tu disais que tu avais peu d'entourage. Ce que j'allais dire, à quel moment, enfin, où est-ce que tu vas chercher justement cette aide à ce moment-là, si tu as peu de famille autour de toi, que t'as pas d'amis, ou est-ce que tu vas chercher du coup ces ressources qu'on sait que l'entourage c'est primordial dans les moments où c'est très compliqué ?
Donc j'avais des amis mais à distance. Ouais. Donc j'avais cette amie juriste qui m'a énormément aidée, puisque déjà elle voyait en fait le schéma se dessiner, elle savait quoi faire. Donc elle m'a orientée complètement. Elle m'a guidée par exemple dans ce genre de cas, si ça vous arrive, je vous le souhaite pas, mais si ça vous arrive, il est important de dézoomer et de commencer à réfléchir légal. Réfléchir aux preuves, réfléchir à comment partir de là sans y laisser trop de plumes. Moi, je ne me suis pas mis en arrêt maladie parce que je n'étais pas depuis assez longtemps dans la boîte pour avoir une couverture de ma mutuelle et je n'étais pas en position financière assez stable pour perdre la moitié de mon salaire. Parce que quand on est en arrêt maladie, on perd une partie de son salaire sauf couverture de la mutuelle et je n'étais pas arrivée à ce niveau d'ancienneté. Mais j'étais en train de me faire virer, ça j'avais compris. J'étais en train de me faire virer, j'étais à distance, c'était le confinement. Et légalement, j'étais couverte puisqu'on m'avait mise au chômage partiel, donc je n'étais pas tenue de travailler en réalité. Comme j'étais en train de me faire virer, je me suis dit que je n'allais pas faire d'heures supplémentaires, ce qui me semblait assez justifié, en sachant que les derniers jours avant ce confinement avaient été dramatiques avec mon supérieur. Il y avait eu des lancers de téléphone sur moi, il y avait eu ce que j'estime, mais je ne peux pas le qualifier de tel, être une agression sexuelle, et que j'avais plusieurs collègues en larmes pour les mêmes raisons. Donc moi, j'ai décidé de sauver ma peau, hein, tout bêtement, en sachant que là, je commençais à être pétrie d'angoisse quand même. Donc j'avais mes amis qui se relayaient pour m'appeler, pour me skyper. Sauf qu'à un moment, les écrans, c'était trop. À un moment, j'étais aussi choquée, en fait, simplement, parce qu'on n'a pas envie que ça arrive à soi, on a envie que ça arrive à personne. Rajouter que si vous avez quelques valeurs, déjà des valeurs féministes, des valeurs humaines, des valeurs de travail, vous êtes choquée, en fait. C'est choquant, ça met une sorte... ça vous met la tête sous l'eau et ça vous appuie dessus à chaque fois que le mec vous appelle, en fait. C'est un couvercle, c'est comme une impossibilité de s'en sortir. Et puis surtout, c'est désagréable au possible.
Et t'essayais de pas répondre, du coup, parce que si, encore une fois, t'es en chômage partiel, t'es pas non plus tenu vraiment de travailler. Qu'est-ce qui faisait que, du coup, t'étais quand même obligé d'un peu de répondre? Tu pouvais pas, du coup, le ghoster, entre guillemets?
Bah, c'est ce que j'ai commencé à faire. Ouais. Voilà, il y a un moment, je me suis dit ma santé mentale first. Et puis, je répète bien que j'étais pas en arrêt maladie, c'était pas pour gagner plus d'argent, c'était pour pas me mettre dans une situation pire. Mmh. Voilà, parce que c'était, je pouvais pas trouver un autre travail. Dans un autre contexte, mettez-vous en arrêt maladie. Hein, voilà. Mais là, je pouvais pas parce que c'était Covid, donc j'allais pas me mettre à chercher du travail. Mmh. Donc j'ai commencé, ouais, j'ai coupé mon téléphone quand j'en avais envie. Je me suis dit que la santé mentale, c'est aussi une forme de chimie. C'est-à-dire que le corps peut être abîmé par certaines choses. Donc là, c'était les agressions permanentes. Mais il peut être rehaussé aussi par tout un tas de choses. On va vous dire, faites du sport, mangez bien, voyez vos amis. Tout ça, pourquoi c'est ces actions-là qui permettent d'aller bien? C'est parce que ça fait une chimie positive dans votre corps. Dopamine, adrénaline, etc. Ça rééquilibre votre état intérieur, et c'est tout ça qui vous empêche de pas tomber vraiment dans la dépression. La dépression, c'est un état chimique, pas que, c'est moral, c'est physique aussi, mais c'est en partie chimique. C'est pour ça que les antidépresseurs, par exemple, ça rehausse des gens. Donc moi, je me suis dit, je vais faire cette action-là antidépressive quelque part, par moi-même, c'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes ? J'aime lire, j'aime le soleil, j'aime bien manger, et en gros, je me suis fait 40 jours de kiff. Parce que j'avais acté que cette relation de travail irait pas bien avec cette personne. Je me suis commandé 40 livres. Je voulais partir en vacances en Italie. Bah, j'ai fait comme si c'était l'Italie chez moi. C'est-à-dire que j'ai acheté un bouquin de recettes italiennes. Le midi, je me faisais un tiramisu. Le soir, je me faisais des pâtes à quelque chose. Et j'ai appris des choses. Et j'ai lu des livres. Et j'étais en mode survie, en fait. J'étais une heure par jour dehors. Enfin, vous connaissez le confinement. Sauf que le confinement à Paris était quand même déjà en mode survie, un peu. C'était un peu mentalement, c'était pas ouf. Et donc là, je me suis dit, en fait, il se passe quoi si je travaille pas? De toute façon, ils sont déjà en train de me virer. De toute façon, j'ai pas envie de bosser pour eux. Donc, il se passe quoi? Il se passera rien.
Mais tu peux pas être viré en plus en chômage partiel, si je dis pas de bêtises, légalement.
Oui, puis ils étaient en train de me... Enfin, je le savais. Ils m'ont viré que quelques semaines plus tard, mais je savais très bien ce qui se passait dans les tuyaux. En fait, quand vous allez voir quelqu'un, un supérieur hiérarchique, et que vous lui dites il y a des potentielles agressions sexuelles dans cette boîte, soit dans les 24 heures, il y a toutes les RH... toute la boîte, tous les dirigeants qui sont alertés et des actions prises immédiatement s'ils veulent faire quelque chose, soit il se passe rien. Mais le silence, c'est une réponse. Le silence, ça veut dire on s'en fout. On s'en fout de vous, on s'en fout du bien-être dans la boîte. Donc moi, ma réponse, il me l'avait déjà donnée. Donc j'allais pas continuer à faire des heures sup, en fait.
C'est clair.
Voilà. Donc je me suis mis en mode kiff. Voilà. Et j'ai profité de ça. Bon, ça, c'est venu dans les jours d'après pour me dire, mais il faut que je prépare mon après, en fait. Parce que là, je suis couverte. Au pire, même s'il me vire demain, j'ai 3 mois de préavis. Donc, il faut que je prépare l'après. Préparer l'après, quand on est en confinement, c'est compliqué. Surtout que j'avais quand même quelques petits signes de mal-être, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait aussi cet aspect... je fais du kiff parce que j'arrivais plus à sortir la tête de l'eau. Mmh. Et parce que même mes amis voyaient que j'étais angoissée, stressée, etc.
Et petit à petit, tu perds totalement aussi confiance en toi, tes capacités, ce que tu vaux.
Oui, et puis vous avez quelqu'un qui vous dit tous les jours que vous travaillez mal, en fait. Donc même si vous êtes sûr de vous, il y a un moment, ça abîme. Et puis ça implique que c'est une personne qui, évidemment, ne sera jamais une référence. Donc quand je fais un process de recrutement, aujourd'hui, je dois l'expliquer, en fait, cette étape. Ce qui n'est pas confortable, ce qui est de plus en plus compris. Donc c'est aussi pour ça que je parle aujourd'hui, c'est parce que plus on en parle... plus on pourra déceler des signes de ça et moins les personnes victimes en pâtiront longtemps. Parce que le problème de ça, c'est ce qu'on souffre sur le moment, mais ce qu'on souffre ensuite derrière. On parle de double peine parfois. Moi, je pense que c'est quadruple peine, en fait. C'est sur le moment, c'est désagréable. Ensuite, il faut chercher un autre travail et on perd du temps d'expérience, du temps de monter en compétences, etc. On peut être stigmatisé selon les personnes qui ne connaissent pas la problématique et qui peuvent se dire ce qui se passe. Et puis, on se traîne le boulet moral aussi, parce que moi, ça fait longtemps maintenant. Mais maintenant, quand je rentre dans un processus de recrutement et que mon manager est un homme, j'ai rien contre les hommes, absolument pas, mais je me pose la question, est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Comment je sais à l'avance ? Quelles questions je vais lui poser avant ? Bien sûr que ça laisse des traces. Mm-hmm. Ça laisse des traces, même pour mes amies. Quand elles me parlent d'une situation, je ne peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que ça va dégénérer pour elles ? C'est chaud.
Ouais.
C'est... Voilà.
Et comment, du coup, c'est quoi un peu alors les... Comment tu réagis à ça, justement, pour sortir la tête de l'eau ? Donc, on a parlé, du coup, de cette période de kiff, où tu essaies un peu de te recentrer, de savoir ce qui est bon pour toi, de mettre en place des petites actions. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, du coup, après ? Donc, après, tu as pu quitter cette boîte, donc tu as pu littéralement... Donc, tu as été virée, c'est ce que je comprends.
J'ai été virée.
D'accord, super.
J'ai été licenciée pour insuffisance. Voilà.
D'accord, bon, et la fois, c'est la libération, quelque part, pour toi, ce que tu te dis... Adieu connard, quoi. Genre, je veux plus en entendre jamais parler. Mais il y a encore un processus, j'imaginais. Est-ce que alors, c'est pas si facile que ça quand tu vis un tel trouble ?
Moi, j'en avais marre. J'avais pas envie que ça soit derrière moi. Et j'avais envie de leur dire stop, en fait. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez choisir d'aller au prud'homme, par exemple. Vous pouvez choisir de vous faire accompagner par un avocat. Vous pouvez choisir d'aller plus loin. Vous pouvez déposer plainte, par exemple, contre l'auteur des faits, déposer plainte contre l'entreprise, en plus de déposer un dossier au prud'homme. Donc, si ça vous arrive, sachez que ça peut prendre du temps, que le DOS ne sera pas derrière vous tout de suite. Et c'est un choix personnel de faire ou de ne pas faire ça, soit parce qu'on a envie d'avancer, soit parce qu'on a envie de penser à autre chose, soit parce qu'on veut être dédommagé quelque part. Donc voilà, c'est les différentes options qui se passent, qui sont prévues par la loi dans ce genre de cas. Après, il faut être réaliste. La vérité, c'est que ça met longtemps, que c'est pas toujours en la faveur des employés, des victimes, parce que ça demande des preuves, parce que ça demande une procédure, parce que ça demande l'aide d'un avocat qu'on peut pas toujours se permettre. Donc il y a plein de cas de figure, et c'est vrai que c'est difficile de prendre cette décision, quelle qu'elle soit. Mais l'idée est effectivement de penser à vous. Si vous avez des valeurs, on va dire, de passer à autre chose, de rebondir, etc., sentez-vous libre de ne pas déposer votre dossier au prud'homme si la lourdeur du process vous fait peur. Au contraire, si vous avez vraiment envie de justice et besoin d'être réparé, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous continuez à rester dans ce problème alors que vous pourriez avancer. C'est vraiment un choix qui est personnel.
Et donc toi, du coup, tu t'es un peu sorti de là. Ça a été un peu le rebond dont que tu annonçais au tout début, où tu disais que maintenant, du coup, bah, tu écrivais.
Ouais, tout à fait.
Donc c'est comme ça un peu que tu as réussi à retrouver un peu de bonheur, un peu de joie et de retrouver confiance en toi aussi.
Exactement. En fait, c'était une passion que j'avais à côté de mon métier. Donc je lisais beaucoup de livres et j'écrivais un peu. J'adore la littérature. J'étais intervenante sur un ou deux ateliers d'écriture. Et puis, j'étais aussi participante dans une école d'écriture qui apprenait à écrire des manuscrits. Et j'avais envie d'en faire quelque chose, mais je n'imaginais pas du tout que ça puisse être mon métier. Je n'ai même pas de parcours d'études littéraires. J'avais du mal à imaginer que ça puisse être un métier aussi, écrivain. C'est difficile de se projeter, parce que c'est artistique en plus. Donc, de se projeter artiste, c'est très, très difficile. Pour moi, en tout cas, ça l'a été. Et pendant cette période où j'ai lu beaucoup de livres, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. J'ai essayé de suivre un petit peu cette lueur de joie. Et une chose en entraînant une autre, j'en ai lu encore plus, j'ai commencé à me documenter, j'ai écrit encore plus. Mécaniquement, j'ai amélioré mes textes et j'ai commencé à regarder du côté de l'édition, du côté des personnalités littéraires, du côté aussi de YouTube, Instagram, parce qu'il y a beaucoup de renouveau dans ce monde de l'édition. Et j'ai eu envie aussi de créer une revue littéraire. Ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à penser pendant ce confinement-là, en me disant, déjà, c'est un projet génial. En plus, ça m'apporte cette joie et ça va me redonner crédibilité, en plus de tous les aspects créatifs. Et puis, si jamais ça devient un projet professionnel, pourquoi pas ? En sachant que j'étais licenciée avec un petit pôle emploi derrière, donc j'avais quelques mois pour décider si j'en faisais un métier. rechercher un autre travail ou m'accorder 2-3 mois de répit aussi pour surmonter ce qui venait de se passer.
T'es parti un peu, justement, toi qui voulais partir en Italie, t'as ramené l'Italie chez toi, mais est-ce qu'après, justement, ce petit moment de transition, tu t'es un peu...
Ouais, j'ai eu besoin d'un endroit où il n'y avait pas de drame, en fait, parce que, déjà, il y avait cette histoire-là, et puis, c'était après le premier confinement, on était un peu tous perturbés, hein, on est devenus tous un peu fous, j'ai l'impression, à un moment, avec beaucoup de... Voilà, quand on est tout seul, en plus, on peut avoir tendance à surscroller sur les informations, et j'étais devenue... très anxieuse, en fait. Je pense que j'avais un souci d'anxiété très, très fort et que même les choses type yoga, bien manger, avoir ses potes et s'éloigner de l'anxiété n'arrivaient plus à apaiser. Non, c'était chronique. Hein. Je m'endormais à 4 heures du matin en regardant le plafond pendant 4 heures avant. Quand mon téléphone sonnait, je sursautais. Enfin, c'était vraiment dur. Et j'avais un rêve d'aller en Grèce depuis très longtemps. Et quand on a pu repartir en voyage, même si c'était pas la chose la plus intelligente à faire, je confesse que voilà, j'aurais pu m'abstenir. Mais je suis partie 3 semaines en Grèce toute seule sur des îles pour avoir plus le bruit de la ville, plus d'informations liées au travail. Et puis juste pour être au bord de la mer, en fait, et regarder l'horizon et m'apaiser, en fait. Pour avoir des sons aussi que je connaissais, parce que je viens d'une région méditerranéenne, et pour m'apaiser, en fait, simplement. Pour me remettre à respirer et puis revivre, en fait. Parce que ce genre d'agression, c'est quelqu'un qui veut vous abîmer, en fait. Qui se croit si bien qu'il est prêt à vous endommager moralement et physiquement pour rester devant. Et on dit souvent dans tout ce qui est en dehors du travail, mais je pense que ça s'applique aussi, dans tout ce qui est agression sexuelle, viol, etc., on parle souvent d'une forme de crime, de meurtre. Le viol est un crime. Parce que ça abîme profondément les gens, ça retire quelque chose de son humanité. C'est pas simplement les embêter, les ennuyer ou leur faire un acte méchant. C'est que ça enlève une partie de leur humanité, du respect, et ça abîme, ça marque à vie, en fait.
Oui, ton âme, elle est... Oui.
Elle est endommagée, ouais, clairement. Elle est endommagée, ça se voit parce que toutes les victimes de ce genre de choses, elles vont en rêver la nuit, avoir des cauchemars, donc ça reste dans l'inconscient longtemps. Voilà.
C'est encore le cas aujourd'hui, ça, du coup, parfois ?
Non, cette histoire-là, non, parce que j'ai été... accompagnée, entourée, que ça s'est très bien remis en place pour moi niveau professionnel. Donc à part une sorte de mépris pour cette personne que j'assume pas très bien parce que je suis pas quelqu'un de méprisant, je suis très calme. Et là j'ai quand même, si je parle de cette personne, je vais mécaniquement avoir envie de dire quelque chose de très dur. Et j'aimerais passer au-dessus de ça, même s'il le mérite quelque part.
Je comprends, parce que moi qui ne le connais pas, j'ai un peu envie de dire des choses pas très cool à son égard. Donc
j'aimerais passer outre. Et en fait, c'est la première fois que j'ai vraiment ce dégoût de quelque chose. C'est la première fois que j'expérimente un vrai dégoût qui dure longtemps. Donc ça, j'aime pas trop.
Ouais.
Mais c'est comme ça, en fait. Et il vaut mieux que je l'aie aussi, au final, hein, bien sûr. Mais du coup, la Grèce, ça m'a permis justement de me redire... déjà, quand on fait des super randos, on reprend confiance en soi, on se dit « je peux faire ça, en fait. Ça, je sais le faire. Je suis pas rien, en fait. »
Tu en mets des petits à petit, tu en mets des petites pierres, du coup.
On remet des petites pierres, mais il faut partir de trucs très, très bas. C'est ça qui est impressionnant, en fait. Mm-hmm. Et j'ai parlé au fur et à mesure avec des personnes qui ont vécu ça. Et en fait, le constat, il est pareil partout. C'est qu'on ça nous remet à des emplacements tellement infantilisants et tellement basiques ou des questions de type est-ce que j'ai le droit de me lever pour aller aux toilettes, est-ce que j'ai le droit de sortir de la salle s'il m'a pas autorisé, est-ce que tout ça, on se repose des questions alors qu'on parle d'adultes de 20 à 60 ans, des cadres, des personnes qui ont fait des études ou qui ont encadré des gens, des personnes qui ont 25 ans d'expérience. Ça met dans cet état de néant, en fait.
On n'avait pas amorcé avant, j'avais posé la question, mais du coup, il y avait, il y avait 20 ans d'écart quasiment entre toi et cette personne, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. C'était une personne de l'âge de mes parents.
Ouais.
Et dans ces personnes-là, plein de gens avaient des filles de mon âge, par exemple, des enfants de mon âge. Ce qui était d'autant plus déstabilisant, parce qu'on a envie de se dire, ils vont se mettre à notre place, en fait. Ils vont penser à leurs enfants, à minima, et pas faire ça. Mais c'est faux, en fait. Il y a des gens qui sont juste des brutes.
Et donc, du coup, tu as mis plein de petites choses. Donc, tu reprends confiance, tu pars, tu te remets beaucoup. Donc, tu lis beaucoup, tu reprends un peu l'écriture. Tu dis que tu as été beaucoup soutenu. On a entendu, du coup, que tu as été soutenu beaucoup par cette juriste qui t'a beaucoup aidé dans le dossier. Et il y a eu d'autres gens à côté alors, qui t'ont aidé. Tu as été soutenu un peu psychologiquement par...
Alors, je l'ai pas fait, mais je peux le conseiller à tous ceux qui vivent ça, parce que ça aide vraiment. Moi, je connaissais bien ce genre de mécanisme, parce que par intérêt, par envie de découvrir, je suis assez féministe par conviction et je connais beaucoup ces sujets-là dans la société. Donc, je connaissais en fait. Les étapes par lesquelles j'allais passer, j'avais compris en fait, je me suis beaucoup renseignée et j'ai pu mettre des mots assez facilement, notamment auprès d'amis qui connaissaient aussi bien ces types d'agressions-là et qui sont elles-mêmes soit juristes, il y a des psychologues aussi qui ont pu, voilà, en parlant, je me suis dit ok, j'ai vécu ça, je mets les mots dessus. Et je ne me suis pas sentie en besoin d'être accompagnée, mais ce n'est pas fermé du tout. Si un jour j'ai des difficultés, évidemment, je le ferai. Le fait d'avoir pu réagir, parce qu'on ne peut pas tout le temps, si on ne réagit pas, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas, en fait. Psychologiquement, le cerveau va se fermer pour essayer de faire croire à la personne qu'elle n'est pas en train de vivre ça pour survivre, parce que certaines informations sont trop dures à accepter. Par instinct de survie, le cerveau va vraiment dire non, tu ne vis pas ça. Ça, c'est le mécanisme du déni. Et moi, j'ai eu la chance, hein, je ne sais pas pourquoi, de ne pas vivre ça sur ce sujet-là. Et donc, de comprendre, de mettre les mots, de mettre les actes en face des mots, du déni, justement, de l'agression, qui sont des mots importants à formuler. Et je trouve ça très bien que ça éclate partout aujourd'hui. Je trouve ça très bien qu'on entende dans tel milieu professionnel, la parole se libère, etc. Alors, grosso modo, c'est tous les milieux professionnels, en fait. Parce que si on les met bout à bout, c'est tout le monde. C'est pas un milieu qui est plus ou moins favorisé. Et donc, de se renseigner sur cette problématique, de s'en rendre compte, de participer à la réflexion générale autour de ça... m'a aidé moi à avancer en fait et à pas me sentir seule, déboussolée, perdue. Il y a beaucoup de ressources aujourd'hui, donc c'est intéressant aussi de s'y mettre. Et ça, moi, ça m'a fait passer à autre chose quand même assez vite par rapport à ce qui était enduré, à savoir aussi que ça n'a duré que quelques mois. Et je compatis avec ceux et celles pour qui ça dure des années, puisque c'est possible aussi. Et le constat, il est le même pour tous, c'est-à-dire qu'il y a une forme de destruction à la fin. Donc effectivement, consulter quelqu'un, c'est très important. Et moi, ce sont mes amis, mes connaissances, le fait d'avoir des ressources, en fait, un petit peu partout, qui m'a aidée beaucoup. Et puis de me projeter dans quelque chose de positif pour moi aussi. Voilà.
Eh bien...
Ouais, c'est lourd, hein.
Ouais. Je ferme bien ma gueule depuis tout à l'heure parce que on en mange beaucoup.
C'est
et
lourd.
Ouais, c'est lourd et à la fois c'est fou parce que on l'a dit, enfin, t'es pas la seule, même autour dans cette entreprise, t'étais pas la seule à vivre ça. Il y a plein de gens qui le vivent, qui savent pas comment l'aborder, qui ont peur du coup de leur supérieur, qui ont peur de leur taf. Et ce qui est vachement bien avec toi, du coup, c'est qu'on voit que ouais, on peut s'en sortir. Ça demande beaucoup de force mentale, ça demande de mettre en place des actions. Mais c'est possible, c'est ça qui est important de faire ressortir. Alors,
pour tous ceux qui ont peur de perdre leur taf, j'ai une seule chose à dire, c'est est-ce que vous voulez vraiment travailler pour ces gens? Est-ce que c'est grave? Est-ce que votre santé mentale est moins importante que travailler pour ces gens? Je sais que c'est facile à dire quand on a des options pour changer de travail. Moi, à ce moment-là, j'en avais pas vraiment. Alors certes, j'ai un diplôme, donc j'étais pas complètement sans ressources. Mais je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais faire. C'était l'endroit le plus abouti dans cette profession-là où je pouvais me trouver. Et en partir aussi vite, c'était cet échec-là dont on parlait tout à l'heure. Et donc, comme je disais, là, par rapport à cette définition de l'échec, j'ai changé de plateau de jeu, en fait. Je me suis dit, OK, là, ça déconne pas, je fais autre chose. Donc, c'est un échec dans la mesure où j'aurais aimé continuer ce travail. J'aurais vraiment aimé. C'est presque une déception intellectuelle, en fait. C'était un job passionnant avec beaucoup d'enjeux, très utile aussi. et avec des collègues qui étaient passionnants. Et ça, j'ai eu peur de ne pas le retrouver. Mais c'est des conneries, la peur, en fait. Il faut essayer, juste. Parce que de toute façon, rester en face de personnes comme ça, ça ne peut pas se terminer bien. Vous n'êtes pas plus fort que des personnes malfaisantes. Il ne faut pas croire qu'on va réussir à le faire changer de comportement. Vous avez juste le droit de ne pas subir ça et le droit de partir. Et la vie, elle va vous faire manger la même soupe tout le temps, sauf le jour où vous vous levez et vous direz « je ne veux pas manger cette soupe-là, je veux des frites ». Voilà, c'est con comme expression, mais c'est ma grand-mère qui disait ça tout le temps. Mais faut pas accepter, en fait. Voilà. Je sais que ça paraît évident, en fait. Ça paraît évident, ouais, mais quand ça vous tombe dedans, dessus,
bien
voilà.
Bien sûr, c'est pas évident. Quand t'es pris dans une spirale hyper négative. Exactement. Comme celle-ci, c'est ça qu'on parle d'entourage, on parle de tout ça, parce qu'il faut à un moment donné s'entourer de bonnes personnes qui te donnent un peu ces clés-là, les ressources dont tu parlais d'avant.
Ouais. Le piège dans lequel pas tomber, c'est d'être tout seul, effectivement. Donc moi, là où j'ai vu qu'il s'engouffrait dans une brèche, c'est que j'étais nouvelle dans l'entreprise. C'est assez rapidement connu que j'avais pas de conjoint, que je vivais seule et que certains de mes amis étaient à l'étranger, parce que ça se voit quand on part en week-end, le vendredi, voir des amis, etc. Donc ils m'ont posé des questions. Et puis j'avais pas d'équipe sur place. Le reste de l'équipe était dans une autre ville de France. Et les premiers mois, on n'est pas proche facilement tout de suite avec les autres personnes. Donc j'étais isolée, en fait. Et c'est dans ces cas d'isolement où les sujets dramatiques comme ça peuvent vraiment devenir dangereux, en fait. C'est là où vous ne le voyez pas. C'est là où vous êtes seule avec vos pensées aussi. Donc le réflexe, dès que vous avez le moindre doute, c'est en discuter avec quelqu'un de proche, même pour se renseigner, pour poser la question, pour avoir différents points de vue. Parce que parfois, une anecdote peut être pas grand-chose et vos amis vont vous dire « mais non, ça, c'est rien ». Mais si vous leur racontez trois fois la même chose, ils vont dire « ok, attention ». Là, toi, t'as la tête dans le guidon, mais nous, on te dit que ça fonctionne pas comme ça. Voilà.
Ouh ! Eh ben, que de bons conseils du compte.
Je t'ai assommé, là.
Non, mais c'est ouf, parce que c'est vraiment un putain de sujet. Et du coup, je suis encore une fois trop content que tu viennes en parler. Et c'est génial, du coup, d'avoir ces mots pleins d'espoir, en tout cas, là, pour la fin, pour les gens qui vivent ce genre de situation.
Ah bah oui, il y a de l'espoir, évidemment.
Il y a de l'espoir. Et Mona, on n'a pas fini. On va enchaîner sur les questions pour la mention, maintenant.
Questions pour la mention.
La première question, Mona, pour toi, c'est quoi les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie?
Alors, la première... Je dirais que c'est l'empathie. L'empathie parce que, déjà, vous évitez de vous mettre à la place des personnes maltraitantes. Quand vous comprenez la personne en face, quand vous vous mettez dans ses chaussures. Et qu'en plus, l'empathie, ça permet d'être plusieurs personnes à la fois, d'apprendre plus de choses. Parce que si vous arrivez à vous mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, vous allez voir le monde avec ses yeux et vous allez apprendre plus de choses. Vous allez vous multiplier, en fait. Donc, c'est hyper enrichissant. Déjà pour être sympa avec les autres, pour pas être un abruti, et puis pour apprendre plein de choses, comme par exemple quand vous êtes un romancier comme je suis devenue et que vous écrivez des vies de personnages, ce qui est enrichissant, c'est de comprendre le métier de tel personnage, sa vie, son parcours. C'est pareil avec les gens dans la vraie vie. Donc l'empathie pour moi c'est essentiel. C'est que comme ça en fait qu'on va progresser, déjà tout seul, mais aussi comme une société. La deuxième vertu, pour moi, ça serait de tenir sa parole. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que quand vous donnez une parole, les gens construisent leur vie, leur parcours, par rapport à ce que vous leur dites, en fonction de qui vous êtes dans leur vie. Si vous êtes manager, vous devez tenir votre parole encore plus. Si vous êtes parent, si vous avez des gens qui comptent sur vous. Et tenir sa parole, ça permet tout simplement... de respecter les autres, déjà, d'une part, de ne pas empiéter sur leur vie et de ne pas abîmer des trajectoires qui pourraient vouloir se créer. Donc, finalement, de vivre en harmonie, tout simplement. Et la dernière vertu, et là, j'espère que ça va donner un petit peu de joie de vivre dans cet épisode, parce que je sens bien que j'ai... Franchement, vous ne le voyez pas là, mais je l'ai écrasé. L'ambiance, elle est dead.
Je suis full focus.
Voilà. La troisième vertu, pour moi, c'est... Alors encore une fois, je vais invoquer ma grand-mère, mais c'est l'effort de travailler, mais l'effort aussi d'avoir de la motivation, d'avoir de la joie, de trouver quelque chose de chouette dans un petit peu toutes les choses nouvelles autour de nous, d'essayer de ces choses nouvelles-là et de ne pas se contenter de ce qu'on a, parce que je vais encore revenir sur la notion d'apprentissage ou de se mettre à la place des autres, mais c'est par cet effort, c'est sortir de ce qu'on connaît, de sa facilité, qu'on va comprendre plus de gens, qu'on va les aider, et pas en les aidant, on va s'aider soi-même aussi. Donc vraiment, cette notion d'effort, pour moi, elle est archi importante.
Je te rejoins. Pour moi, l'effort, il est aussi très lié à... On en parlait avant d'enregistrer un petit peu. Il est très lié à la discipline aussi, en fait, l'effort. Parce que c'est quelque chose qui doit être constant, en fait, un effort. Un effort, il ne peut pas être que ponctuel.
Ouais.
Et j'écoutais un truc. En ce moment, je ne sais pas ce que j'écoute des podcasts le matin en anglais, tu sais, motivation, genre à balle, tu sais, je suis sur le scout. Et le mec avait cette phrase, justement, où en gros, il disait que la confiance en soi et la discipline, c'est la même chose, en fait, justement.
C'est la même chose.
C'est très lié.
Bien sûr.
Tu vois. Et donc, quand on est en perte de repères, on est en perte de confiance, il faut se rattacher à ces petits efforts, il faut se rattacher à cette discipline pour se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, putain, je sais gravir ce mont, putain, je sais le faire, en fait, putain, je peux le faire.
Ouais, alors,
c'est ça qui nous rattache.
Moi, ce que ça m'a appris, cet échec, c'est aussi de me dire, en fait, j'ai fait pire. Maintenant, quand je fais un truc difficile, je me dis, non, mais j'ai fait pire, donc ça, je vais y arriver. Même quand je vais courir et que je suis en train de galérer, que je crache mes poumons, je me dis, mais tu vas pas t'arrêter là, t'as fait pire, en fait. Et ça m'aide à monter dessus de ces achievements, en fait, et à avancer. Et ce que tu dis sur l'estime de soi, c'est assez juste parce que c'est un cercle, en fait. Ta discipline va aussi nourrir ton estime de toi.
C'est vertueux.
Au moment où t'es au fond du trou, ce que t'as fait de bien, de positif, va remonter ton estime de toi et tu vas pas t'auto-flageller, tu vas pas douter, tu vas moins douter. Bien sûr qu'on doute quand même, sinon on est infernal, voilà. Mais effectivement, ça se nourrit, en fait. Et c'est pas la discipline, comme on pourrait dire, il faut tous les matins se lever à 5h et faire ça, etc. Certains peuvent le faire et c'est très bien, mais c'est la discipline pour soi-même, envers soi-même, de se respecter, de respecter les choses nécessaires pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé.
Et ça revient à ce que tu disais aussi, de tenir sa parole au final.
De tenir sa parole, exactement.
Tu t'es fixé un objectif, tu dis, moi j'ai envie d'atteindre ça, bon bah tiens ta parole, bah mets en place du coup ces actions et tiens-les. Donc c'est vrai que tout ça c'est lié.
Oui, mais parce que ce qu'on fait pour nos amis, par exemple, les complimenter ou tenir notre parole, il faut se le faire pour nous aussi. C'est-à-dire qu'on va jamais, il ne faut pas se regarder dans la glace et dire, oh aujourd'hui je suis pourrie. On ne parlerait pas comme ça à un ami, pourquoi on le fait pour nous?
C'est très drôle ce que tu dis, j'ai prévu, ce sera trop tard, on postera plus tard l'épisode, mais j'ai un post LinkedIn aujourd'hui qui est prévu exactement sur ça. En disant, si je parlais à mes amis comme je me parle à moi, j'aurais pas de potes.
Bah non.
Tellement je me parle comme une merde.
Bah ouais.
Et c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Il faut à un moment donné un peu se congratuler, se respecter,
voilà,
et bien se parler.
C'est pas s'envoyer des fleurs en plus, c'est juste comprendre qu'en fait son corps, son cerveau fonctionne comme celui des autres et que... Il faut qu'il y ait des entrées positives et il faut éviter les entrées négatives. Donc, se faire plaisir, comme je disais tout à l'heure, avec les aspects, quand on ne va pas bien, rajouter des choses positives dans sa vie, aussi mécaniquement bête que ça puisse paraître. Et puis, couper les entrées négatives, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui ne vous fait pas du bien dans votre vie, next, en fait. Voilà.
Next. Du coup, next question. Du coup, parfait. Transition magnifique. Mona, toi en plus du coup qui écris, est-ce que tu as un livre que tu as particulièrement apprécié, que tu aimerais partager?
Alors il se trouve que mon livre préféré de tous, c'est un petit roman qui s'appelle Le Joueur d'échecs, ou Une Grande Nouvelle comme vous préférez.
Non putain, l'échec aujourd'hui.
Le Joueur d'échecs, c'est l'histoire de deux personnages sur un bateau qui jouent une partie d'échecs. Un qui est considéré comme bête dans la vie, et qui pourtant est champion d'échecs, et puis une autre personne qui accepte de le défier et qui se trouve être une personne cultivée, lettrée, etc. Je ne vous raconte pas la fin, évidemment, mais ce livre est super pour parler de sa vision du monde, en fait, de la vision du monde de l'auteur, et puis pour vous interroger sur la vôtre. Voilà, c'est Stefan Zweig, et c'est un super livre, et c'est court en plus, et c'est bien écrit.
Le nom, c'est ?
Le Joueur d'échecs.
Le Joueur d'échecs. Trop stylé. Bon, déjà, je sais. Bon, j'ai déjà une to-do énorme, mais je vais me le rajouter dessus parce que tu me l'as bien vendu. Dernière question, Mona. C'est quoi ton prochain objectif?
Alors, mon prochain objectif, je pense que vous l'avez compris, c'est que j'en ai marre des cons. donc, je pense que là, c'est le moment de faire un truc pour moi, même si je travaille très dur toute l'année, évidemment. Et j'ai un grand rêve qui est d'aller surfer en Polynésie.
Oh.
Donc, c'est pas un objectif à court terme. Mais je viens d'ouvrir ma cagnotte pour mettre des sous tous les mois dedans et partir faire ça. Donc j'espère que d'ici un an et demi, deux ans, je serai sur une grosse vague, loin.
Tu sais déjà surfer, tu surfes
bien ? Je surfe un peu, okay. Ouais. Je surfe un peu, mais il faut progresser avant ça, parce que si j'arrive pas à monter sur ma planche alors que je suis en Polynésie, ça va être vraiment dommage.
C'est con, ouais.
Voilà, ouais.
Ça va finir en mojito, cette histoire, ou en coconut.
Mais... Oui, pourquoi pas. Ouais. Non, ça sera un chouette projet, ça, pour le coup.
Trop cool.
Bah, pas professionnel, hein, donc ouais. N'oubliez pas de vous faire plaisir.
S'en fout, il n'y a pas que le pro dans la vie, hein, c'est aussi le concept du podcast, c'est de montrer que l'échec et tout ce qu'on a, la vision, elle n'est pas réduite qu'au professionnel. Hein. On a le droit d'avoir une vie à côté, d'avoir des projets, d'avoir plein de choses. Donc... Je te soutiens à 100%. C'est tout le mal qu'on te souhaite du coup pour aller surfer en Polynésie.
Eh ben merci.
Mona, j'ai un petit rituel de fin avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux résumer tout ce qu'on s'est dit depuis bientôt une heure ? Ça va être un long épisode et je suis très content d'ailleurs. Est-ce que tu peux résumer tout ça en une phrase, genre une grosse punchline de fin ?
Eh ben ma punchline, ça serait j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vivre avec des imbéciles autour de moi. Donc si vous êtes confronté à une situation où des gens vous tirent vers le bas, faut pas avoir le temps pour eux, en fait. Faut changer de plateau de jeu, parce que vous pouvez essayer de les battre pendant longtemps, peut-être que vous allez y arriver, peut-être que vous allez y laisser des plumes. Donc réfléchissez à deux fois si ça vaut le coup de se battre pour ça, ou si vous avez pas une autre option géniale qui s'ouvre ailleurs et qui en plus vous évitera de perdre votre temps. Voilà, j'ai pas le temps, moi j'ai besoin de temps pour aller surfer, j'ai besoin de temps pour vivre ma vie. Donc, les personnes comme ça, il faut les nexter.
Magnifique. On va terminer comme ça. J'espère que les gens auront le temps de tout écouter. Par contre, ça vaut le coup, putain. C'est une heure, qu'ils prennent le temps pendant une heure d'écouter cet épisode
ça
parce qu'il est pépite. Bientôt une
je
heure,
je me suis
ouais.
pas ennuyée, mais 55. Bon, comme je monologue...
Ah ouais, mais moi, j'aurais pu t'écouter encore pendant très longtemps. Hein, du coup, okay. Fabuleux. Bah, Mona, merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup pour cet épisode qui est... Ça va être une pépite pour cette dernière saison. J'en bafouille tellement, j'en ai pris plein la gueule. Merci. Et puis, bah, tout le meilleur pour toi, bien évidemment.
Mais merci à toi.
Et ciao, ciao.
Avec plaisir. Salut.
Une fois n'est pas coutume, ça me fait super plaisir que tu aies écouté l'épisode. Merci beaucoup pour le soutien. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, tu peux me permettre de faire connaître le podcast avec deux actions super importantes. La première, c'est de mettre une note et un avis sur Apple Podcast, comme tu sais. Et la deuxième, bah c'est d'en parler autour de toi, bien évidemment. Tu peux également t'abonner à la page Instagram Phoenix Podcast et me suivre aussi sur LinkedIn. Je réponds toujours aux messages avec grand plaisir, même si j'avoue que je ne suis pas toujours hyper actif. Enfin, j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec. En gros, plus vulgairement, je mets des coups de pied au cul, mais avec sourire et bienveillance. Donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau. Je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff.